Bonjour à tous, ici Laurie Michaud et bienvenue à Management 101, balado propulsé par Koboom, cabinet conseil en management. Chaque semaine, je m'entretiens avec ma collègue Catherine Dubé, copropriétaire chez Koboom, pour adresser un des 16 domaines du modèle intégrateur du management développé par notre cabinet. Notre but, vous donner des outils pour mieux gérer. Cette semaine, on parle de pouvoir. Le pouvoir, c'est la capacité à produire ou à modifier des résultats en fonction de ses objectifs et de ses besoins propres. Le pouvoir en entreprise, traditionnellement, c'est le droit de prendre des décisions, des mesures ou carrément d'obliger les autres à le faire. Cependant, ce ne sont pas toujours les personnes auxquelles on donne le plus de pouvoir qui en ont réellement le plus. Une étude réalisée en 2016 a d'ailleurs montré que 4% des répondants d'un sondage percevaient que leur gestionnaire avait un pouvoir élevé, alors que 64% d'entre eux disaient qu'il avait un pouvoir plutôt modéré. Inversement, ces répondants donnaient plus de pouvoir à des gens qui n'en avaient pas officiellement dans l'organigramme. Il en est tout autrement quand on se retrouve dans un contexte d'entreprise responsabilisée. J'appelle Catherine pour démêler le tout. Bonjour Catherine.
Bonjour Laurie.
Ça va bien?
Ah, ça va bien, toi?
Oui, ça va un bon début de semaine.
C'est chargé, hein, quand même?
Ouais, c'est une grosse... Notre été, il est comme contre-intuitif, là. Il est pas comme il est d'habitude à cause des circonstances, mais c'est le fun comme ça en même temps.
Oui, ça bouge.
Oui. Aujourd'hui, on a décidé de parler du pouvoir. Il reste de moins en moins de sujets dans notre banque de sujets. Puis, en fait, c'est un article dans la presse qui nous a inspiré un peu ce sujet-là. Puis, encore une fois, c'est un peu tiré par les cheveux, vous allez voir, mais le lien se fait. En gros, je mets en contexte, au mois de mai, il y a des négociations qui ont commencé pour que le Nordstar Capital fasse l'acquisition de Torstar, qui est un groupe de presse canadien dont le principal média est le Toronto Star qu'on connaît bien. Bref, jeudi dernier, ils ont discuté la transaction lors du CA, puis elle a été approuvée. Fait que tout le monde a donné son go, la transaction se faisait. Mais plus tard dans la journée, la juge responsable de faire le dossier de la transaction a reçu de deux groupes différents des documents qui demandaient à bloquer la transaction. Puis la décision a été reportée, même si toute le CA l'avait approuvée. Ce qui m'amène à dire que c'est pas toujours les gens qui ont le plus de pouvoir écrit ici, le CA, qui normalement devrait pouvoir prendre ce genre de décision pour l'entreprise. C'est pas nécessairement eux qui ont réellement le plus de pouvoir. Donc le pouvoir, c'est complexe.
Tout le temps.
Voici mon introduction. C'est pour dire que c'est jamais simple, c'est jamais aussi simple qu'on pense.
C'est rarement ceux que c'est écrit qui ont réellement le pouvoir.
Exact, puis c'est là, faut aller chercher les subtilités, mais tu sais, c'est pas toujours facile à faire. D'ailleurs, on va venir introduire justement au concept de structure formelle versus informelle. Mais avant, juste une petite parenthèse, on est souvent habitué de parler de pouvoir puis de ce qui change dans le pouvoir dans l'entreprise responsabilisée, car c'est ce que nous sommes et c'est ce qu'on aime aussi, puis on aime en parler parce qu'on croit en ce modèle-là. Cependant, on va quand même faire un segment là, sur le modèle un peu plus traditionnel du pouvoir qui va se retrouver dans la majorité des entreprises, juste pour que tout le monde puisse s'y retrouver. La structure de pouvoir, c'est le mélange de la structure formelle et la structure informelle. La structure formelle, c'est la structure qui est voulue par les dirigeants, prévue par les organigrammes. Ça, c'est quand même assez... Je veux dire, c'est fréquent. Il y a ça dans toutes les entreprises.
Ouais, le fameux organigramme, l'arbre, là, qu'on voit souvent dessiné, ça peut être... traditionnellement, ça ressemble à un arbre.
C'est ça. Puis est-ce que ça arrive qu'il n'y a pas ça dans les entreprises?
C'est très rare, à moins d'être une entreprise en démarrage, puis que là, ça bouge tellement vite. Ce qu'il n'y a pas souvent, c'est la plus récente mise à jour. Donc, des fois, il y en a un, mais il n'y a pas de mise à jour qui a été faite. Avec pas les bons noms de personnes, puis tout ça, puis...
Les mauvais postes.
Ah oui.
Ouais, ça, on le voit aussi. Donc, garder son organigramme à jour, des fois, ça... Tu sais, c'est pas inutile, c'est super pertinent dans plein questionnement, puis aussi pour partager à d'autres entreprises, des fois, c'est super pratique. Ensuite, il y a la structure informelle, puis ça, c'est les interactions entre les humains qui se développent au fil du temps de manière moins officielle. Puis faut pas les sous-estimer. Les structures informelles sont vraiment puissantes, vraiment plus qu'on pense.
Par exemple, les liens familiaux, les couples, les liens d'amitié et les liens de chicane, parce que des fois, c'est pas juste positif, des liens entre deux personnes. Des fois, c'est vraiment... Il y a des conflits interpersonnels. C'est là qu'on se rend compte, des fois, que des gens qui ont plus d'informations qu'un poste dirigeant, parce que bon, ben, son meilleur ami, c'est la directrice des RH, puis même si on veut pas, on n'est pas censé faire sortir de l'information, ben, il y a toujours des fuites un peu par-ci par-là, puis c'est en sorte que, au final, les gens ont réellement plus de pouvoir. Moi, je dis souvent que l'information, c'est le pouvoir.
Ouais, on l'entend souvent, puis je pense que c'est tellement vrai, là, parce que c'est tout le temps quand tu sais le plus de choses, c'est pas nécessairement des potins, mais même des informations clés sur l'entreprise, puis c'est vraiment pas tout le temps par des voies traditionnelles que ça va se partager.
Puis ce qui est dangereux avec ça, c'est il y a des gens qui utilisent le pouvoir informationnel à mauvais escient, c'est-à-dire « Ah, oh, moi, je sais quelque chose, mais tu sais, j'ai pas le droit d'en parler. » C'est-tu gossant, quelqu'un?
La culture du secret, oh! Oh, j'haïs ça.
Tu sais, comme, pourquoi tu m'en parles de bord si tu le sais pas? Mais ouais. Ça, c'est plus fréquent qu'on le pense dans les organisations.
Mm-hmm. Je pense qu'un point clé à retenir, c'est que c'est pas parce que non plus tu veux donner du pouvoir à certains membres, mettons que tu lui donnes un super beau titre, qu'ils vont nécessairement l'avoir. Tu sais, des fois, la structure informelle est plus grande que la structure formelle. Puis je pense qu'en tant que gestionnaire ou entrepreneur, le défi, c'est de le voir, de l'accepter, premièrement, ouais. Et de le voir, tu sais, pas se fermer les yeux là-dessus, puis de voir après ça comment ça peut venir influencer soit notre organigramme formel ou même des projets ou des différentes équipes.
Des décisions. Des fois, on a l'impression, on se demande pourquoi cette décision-là est impopulaire dans notre entreprise. Ah, ben, il y a des terroristes.
Qui vont faire que l'idée va être mal reçue.
Exactement.
Par rapport au pouvoir informel, il y a quand même de la théorie, même si c'est informel, il y a de la théorie là-dessus. Puis il y a comme 4 sources de pouvoir principaux informels. Il y en a 2 que j'ai mis ensemble parce que je trouve qu'ils vont ensemble. En fait, c'est le pouvoir d'expertise et le pouvoir de référence. Fait que d'expertise, c'est un pouvoir basé sur les connaissances et les compétences de la personne. Fait que les gens vont se référer à elle à cause de ça. Puis le pouvoir de référence, c'est un peu la même chose, mais poussé un peu plus loin, c'est que les gens vont écouter ce que la personne va dire parce que ils ont peut-être de l'admiration ou, tu sais, ils voient la personne comme un mentor, mais souvent, avant ça, ben, il va avoir un pouvoir d'expertise qui va venir avec ça.
Ça suit. Bien, on pourrait donner l'exemple du pouvoir à un expert dans l'entreprise. Exemple, on est dans un département d'ingénierie. La personne, il y a un directeur de l'ingénierie qui est arrivé récemment, par exemple, puis qui n'a pas de pouvoir nécessairement dans son équipe parce que, bon, mais il y a quelqu'un que ça fait, exemple, 25 ans qui est là, puis son pouvoir d'expertise et de référence est reconnu par l'équipe. Puis que si cette personne-là est contre les initiatives de son directeur, bien, ça se peut très bien qu'il y ait des choses qui n'arrivent pas. Et au contraire, si cette personne-là collabore vraiment bien avec le nouveau ou la nouvelle nouveau directeur ou nouvelle directrice, bien que là, tout d'un coup, la gestion de changement est même pas nécessaire parce que ça se fait, parce que, bon, bien, la personne de référence accepte. Tu sais, ça marche. Donc, pour moi, c'est super important qu'une personne qui est en pouvoir, c'est un, puis là, on ne me voit pas, mais je fais des guillemets, dans un poste de gestion, qu'elle connaisse c'est quoi la structure informelle dans son équipe. Y a-tu des gens de référence? Y a-tu des gens qui sont experts? Puis de prendre connaissance de ces personnes-là, puis de développer des relations de proches. Là. T'sais, même si c'est pas nécessairement ton meilleur ami le week-end, peux-tu développer une relation de collaboration avec cette personne-là?
Oui, c'est sûr. Puis aussi, il y a un exemple qui vient en tête pendant que tu parles. J'ai une amie qui a un nouveau directeur, puis son directeur sait pas faire plein de choses qu'elle sait faire parce que ça fait plus longtemps qu'elle est là, mais là, elle est comme... Elle sent pas tellement en confiance de lui poser des questions parce qu'elle a l'impression qu'il est presque pas moins compétent, mais tu sais, qu'il sait moins de choses. Fait que c'est complexe aussi. C'est comme... C'est supposé d'être son boss, là, immédiat. Mais si elle a une question, elle va plus être portée à aller le poser à ses autres collègues qui connaissent plus de choses dans l'entreprise.
C'est normal, mais il faut justement enlever la zone grise puis le malaise autour de ça.
Oui. Ensuite, il y a le pouvoir informationnel. On en parlait un peu plus tôt. Ça, c'est simplement la personne détient de l'information importante pour les autres. Puis ça, je pense que ça peut devenir une des plus grosses sources de pouvoir.
Oui. Au final, là, parce que nécessairement, sont tous interreliés. Mais la source de l'information, on se rend compte qu'au final, puis même quand on va en parler plus tard, mais quand on passe vers une entreprise responsabilisée, c'est ce pouvoir-là qui est le plus difficile à faire disparaître.
Et finalement, le quatrième pouvoir informel, ce serait le pouvoir de connexion. Donc, sont un peu tous similaires, mais celui-ci, ça repose sur la puissance du réseau de contact de la personne. Puis ça s'acquiert surtout avec l'expérience.
Oui, mais aussi en même temps, ça peut être le réseau à l'intérieur de l'entreprise. C'est pas obligé d'être un réseau externe. Puis ça, c'est ta capacité à créer des liens.
Mm-hmm.
Puis ça, ben pour des gens extrovertis, c'est super facile. Des gens introvertis, plus difficile. Donc là, c'est triste, mais en même temps, il y a comme un élément de personnalité autour de ça. Mais à la fois, c'est des gens qui... Il y a deux côtés de la médaille aux gens qui ont un gros réseau à l'intérieur de l'entreprise. Ça peut les aider comme ça peut les nuire. Donc, est-ce que tu as une réputation positive au sein de l'organisation puis même dans ton marché ou négative? Parce qu'avoir une réputation, c'est pas gage de succès et de positivité.
Ça conclut les pouvoirs informels. Il y a aussi une distinction importante qu'on voulait faire dans l'épisode sur le pouvoir parce qu'on confond souvent pouvoir et leadership. C'est vraiment pas la même chose.
Le leadership, c'est un état, donc ça appartient à la personne, OK? Donc le leadership, j'ai beau essayer de t'en donner, ça fonctionnera pas. C'est vraiment une attitude, c'est une façon d'élever les gens autour de soi, d'être à l'écoute, d'être au-devant. Donc c'est tout l'aspect de leadership. C'est sûr qu'on espère que nos leaders soient des gens inspirants et qui aient du pouvoir, donc simultanément. Toutefois, on a des fois des gestionnaires qui sont des mauvais leaders et qui ont beaucoup de pouvoir pour X ou Y raison. On a des gens qui ont très peu de pouvoir, mais que c'est des excellents leaders parce qu'ils n'ont pas accès à l'information, par exemple. Donc, c'est souvent relié, mais la moitié du temps, ça ne l'est pas.
Fait que ça, c'est les deux combos qu'on voudrait éviter, là. Quelqu'un qui a beaucoup de pouvoir et pas de leadership, et aussi quelqu'un qui n'a aucun pouvoir décisionnel, mais qui aurait beaucoup de leadership. C'est comme
Les deux extrêmes qu'on veut pas nécessairement. Idéalement, les gens qui ont du pouvoir ont un leadership positif.
Ouais, parce que le leadership, en fait, ça, comme tu dis, ça émerge un peu par lui-même. Est-ce que ça s'apprend?
C'est une bonne question. Moi, je pense que ça s'apprend... Ben, c'est vraiment une philosophie personnelle. Là, c'est Catherine Dubé qui se cite, là, mais...
Ouais, un peu comme l'entrepreneuriat. Moi, je me suis toujours demandé aussi si ça s'apprenait.
Ça, je pense que c'est plus dur. Parce qu'au niveau de l'entrepreneuriat, on va faire la parenthèse entrepreneuriat avant le leadership, mais au niveau de l'entrepreneuriat, il y a tout un côté risque qui est comme inné. Tu sais, c'est quoi notre relation par rapport à l'argent? C'est quoi notre capacité à voir plus loin? Puis ça, je pense que c'est des éléments, tu sais, tu l'as ou tu l'as pas. Je pense que ça se développe difficilement, ta relation au risque. Je pense que ça peut évoluer, mais est-ce qu'on peut aller aux deux pôles extrêmes? J'y crois pas. Tu sais, c'est quoi ton besoin de sécurité?
Non, je serais assez d'accord.
Ça, je suis heureuse. Puis tu sais, après, je pense qu'on peut faire émerger des qualités entrepreneuriales chez les gens. Ça, j'y crois. Mais est-ce qu'ils vont devenir des entrepreneurs? Ça, c'est d'autres choses. Et puis, du côté du leadership, moi, je pense qu'il y a un aspect naturel. Exemple, là, on a une recette 50-50. T'as un naturel qui est naturellement un leader. Exemple, là, tu le voyais dans l'équipe de soccer, c'était toujours lui qui était capitaine, qui était impliqué dans le comité, puis tout ça. Moi, personnellement, j'étais vraiment pas de même plus jeune. Mais avec le temps, mon côté entrepreneurial m'a poussée à développer mon leadership. Mais tu sais, il faut être conscient et consciente de nos faiblesses comme leader pour être capable de se développer comme leader.
Ah, moi, c'est le contraire, tu vois. Je pense que j'hésitais pas à prendre le lead sur les équipes, mais je me sens pas tellement entrepreneur dans l'âme.
Que toi, c'est le côté, t'as le côté leadership et moins entrepreneurial.
Fait qu'on est une bonne équipe, finalement.
On est une bonne équipe, c'est pour ça qu'on est un duo.
C'est sûr.
Mais le côté leadership, moi, j'y crois fortement qu'on peut s'améliorer. Mais tu sais, personnellement, par exemple, pourquoi j'ai fait une entreprise responsabilisée, c'était pour combler cette faiblesse-là de leadership que j'avais. Mm-hmm. Mais je pense que ça se développe. C'est-à-dire, exemple, l'écoute. Quelque chose qui peut se développer, mais faut-tu que tu admettes que t'as pas d'écoute pour être capable de t'améliorer?
Comme dans
ça, tout. C'est plus touché. On dirait que les faiblesses de leader, tu sais, c'est comme... D'admettre que t'as pas une force de leader, c'est comme d'admettre que t'es comme pas bon, tu sais.
Ouais, mais je pense qu'on a aussi une je pense qu'on a une idéalisation du leadership, mais tu sais, c'est une qualité comme une autre. Là. Faut pas non plus l'élever au rang de je sais pas quoi, de Dieu. Tu sais, c'est pas ça du tout. C'est comme une qualité qui fait partie d'un tout. Puis si tu l'as pas, ben justement, tu vas développer des méthodes pour l'améliorer.
Ben pour t'entourer aussi, pour t'améliorer, pour t'entourer. Moi, je crois fortement que un bon leader est celui qui sait s'entourer, puis que là, ça devient une équipe de leaders et non un seul leader. Ça, j'y crois beaucoup. Puis là, on vient se compléter sur plein de facettes. On devient le... Tu sais, je pense qu'une équipe est le meilleur leader qu'un leader seul. Mm-hmm. Ben, ça va beaucoup avec notre philosophie.
Oui, mais ça, c'est toujours vrai, là, que les décisions prises en groupe sont souvent meilleures que les décisions prises seules.
Oui. Mais ça, ça dépend dans quel contexte. Là, si tu mets des gars pour pas... J'ai rien contre les gars. Mais si tu mets des gars dans un party d'alcool, ça se peut que la décision, au final, soit pas nécessairement toujours la bonne.
Ouais, ça, c'est un autre sujet.
Mais genre je pense l'ange moyen mental d'un groupe, là.
Ouais. Mais je pense que qu'est-ce qui est à retenir dans cette section-là qu'on vient de parler, c'est que le but, je pense que ça serait de mettre un plan d'action. Si vous sentez que vous avez comme pas le contrôle sur qui fait quoi, tu sais, mettre un plan d'action qui va considérer tous les pouvoirs. Et ça, c'est le pouvoir formel, informel et le leadership.
Tout à fait.
On va faire une petite parenthèse théorie pure et dure. Il y a deux concepts qui sont des acronymes, là. Le feedback et le RACI. Je sais même pas si c'est comme ça qu'on le dit.
Oui, c'est comme ça.
Mais c'est des processus qui aident à déterminer les rôles, les responsabilités et les pouvoirs quand on veut le formaliser un peu dans une entreprise. On va commencer par le FIPEC. Ça sert à définir le processus à analyser et ses tâches.
Tout à fait. Que FIPEC, c'est l'acronyme pour fournisseur, intrant, processus, extrant, client. Donc, comment on fait pour faire un FIPEC? C'est tout simple. On fait la liste de nos étapes, donc de nos fameux processus, donc du besoin client, par exemple, jusqu'à sa pleine satisfaction.
C'est ça. Donc là, tu les as nommés en ordre chronologique, mais on commence pas au premier, on commence au milieu.
On commence toujours par le P, puis on fait le P au complet. Exemple, on a 10 étapes, on fait les 10 étapes.
Ouais.
Puis après, pour chacune des étapes, on vient ensuite faire c'est quoi l'intrant. Donc, qu'est-ce que j'ai besoin en intrant? C'est de l'information, c'est de la matière, de l'humain, peu importe. L'humain, j'ai l'humain parce que dans les processus hospitaliers, c'est des humains. Donc c'est quoi l'intrant, puis c'est qui me le fournit, donc le fournisseur. Donc là, on recule. Puis après, pour le même processus, on va vers l'avant. Donc, suite à cette étape-là, c'est quoi l'extrant? Ben, parce qu'un processus, c'est quoi? C'est que je transforme l'information, une idée, de la matière, il y a une transformation. S'il y a pas, c'est juste une passation, on n'est pas dans un processus. Puis là, je regarde c'est qui mon extrant, puis mon client qui va utiliser cet extrant-là. Donc ça nous permet de comprendre nos processus. C'est vraiment ingénieur, c'est pas une méthode RH. Donc ça, c'est vraiment, il faut faire attention. C'est pas naturel, on n'apprend pas ça sur les bancs du HEC, j'ai pas appris ça en faisant mon titre de l'ordre. On prend ça, mais pour nous, c'est super important parce qu'après, on se rend compte que le pouvoir, comme on s'est dit, le pouvoir de l'information, si j'ai pas accès à toute l'information, je peux pas avoir accès à tout le pouvoir informel. Je vais juste avoir accès aux décisions, puis on saura même pas pourquoi.
Exact. Fait que ça, c'est un processus très cartésien. Puis ça sert, comme tu dis, à avoir une vue d'ensemble sur un processus. Des fois, on s'arrête même pas pour se demander, tu sais, qu'est-ce qu'il y a dans ce processus-là. Puis ça va aussi aider à en faire des nouveaux. Si on veut implanter de nouveaux processus, il faut d'abord connaître ceux qu'on a. Ça peut aussi aider à définir l'étendue d'un projet. Puis ça permet à tout le monde aussi d'avoir la même visibilité.
Yes! Puis là, c'est ensuite que nous, chez Kaboom, on vient utiliser le FIPEC avec le RACI.
C'est ça. La deuxième étape, là, une fois qu'on a analysé les processus, c'est de définir les rôles pour chacun de ces processus.
Puis RACI, c'est un outil qui est très utilisé en gestion de projet. Je sais pas pourquoi il est si peu utilisé en RH, parce que...
C'est tellement applicable, oui.
C'est tellement applicable, puis après, on vient comprendre pourquoi. Mais pourquoi il y a des directeurs versus un coordonnateur versus un opérateur, par exemple. Puis le RACI, c'est pour responsable, approuve. Soutien, consulter, informer. Ce qui est important à retenir, là, il faut un seul responsable par processus. Plus d'un responsable, pas de responsable au final.
Règle d'or numéro un.
Règle d'or numéro un. approuve. Dans une entreprise très hiérarchisée, il va y avoir des niveaux d'approbation. Donc là, c'est qui approuve quoi? Donc, tu sais, des fois, c'est là qu'il y a nos fameuses règles de gestion. Exemple, dans un budget, là, tu peux dépenser tout ce qui est en bas de 5 000. Ça va à ton directeur si c'est entre 5 000 et 20 000. Puis ça va au comité de gestion si c'est 20 000 et plus, par exemple. Le soutien, c'est des bras. Versus le consulter, c'est une tête. Donc, soutien, c'est moi qui est responsable. Mais si je suis en train de déborder, qui peut m'aider à réaliser ma tâche? Donc là, c'est exemple, une adjointe à la direction va être en soutien du président. Va pas être responsable. Donc, c'est là la différence sur certaines tâches. Consulter, c'est là que le pouvoir, c'est là qu'on voit les pouvoirs de l'expert. Donc, pas non négligeable. Donc, le pouvoir de l'expertise puis le pouvoir de référence qui ressort au niveau du consulté, le fameux C.
Puis il ressort même un peu formellement, même si on dit que c'est informel. Là, c'est quand même présent.
Ouais. Bien là, on le rend formel dans le RACI. Sinon, ça. On l'oublie, on le voit même pas. Mais là, on vient d'afficher, puis c'est le fun, parce que quand quelqu'un, exemple, arrive, il est dans un processus, puis là, il fait comme, je peux aller consulter telle personne. C'est là, c'est quand même cool. Et au final, le informé, le I, c'est les fameux CC. Ça nous aide à mettre les gens dans copie conforme au bon moment. Puis ça, c'est pas à bidirectionnel. On s'attend à quelqu'un en CC qui ne réponde pas, qui est juste informé. Donc là, si tu veux que la personne soit consultée, tu mets un C. Si tu veux qu'elle soit informée, tu mets un I. Donc, on a fait notre liste de processus, puis après, on vient de faire ça pour chacun de nos postes, c'est qui le responsable. Puis au final, après, quand tu as passé tous tes processus dans l'entreprise, là, tu as une description de poste merveilleuse.
Donc, ces deux processus-là, comme tu dis, Catherine, c'est pas une mince tâche, mais c'est comme un très bon point de départ si jamais vous vous êtes jamais penché sur la question du pouvoir.
Puis en même temps, si vous êtes déjà penché puis vous comprenez rien, mais au moins ça rend cartésien une décision qui est des fois comme émotive.
C'est vrai que ça peut aider à comprendre bien des affaires. Maintenant, on peut parler du pouvoir en entreprise responsabilisée, qui est comme notre sujet chouchou. Parce que, en gros, le pouvoir traditionnel, c'est bien, puis ça peut s'appliquer dans plein d'entreprises, mais souvent, qu'est-ce qu'on trouve, c'est que ça laisse moins de latitude aux gens, et surtout, ça les responsabilise pas. C'est le concept même de l'entreprise responsabilisée. Comment l'entreprise responsabilisée transforme le pouvoir?
Elle vient l'aplanir. Donc, il y a tout un concept derrière, c'est la théorie de McGregor, si je me souviens bien. La théorie des X et des Y, qui fait en sorte que on pense qu'il y a deux types d'employés. Les X, puis là, on parle pas des générations.
Non, c'est ça.
À ne pas confondre avec les générations. Cher X, je parle pas de vous. Donc, mais la théorie des employés X, c'est qu'ils sont des fainéants, qui veulent pas aller travailler, puis qu'il faut les contrôler pour qu'ils donnent leur plein potentiel. Tandis que la théorie au niveau des employés Y, c'est que les employés viennent parce qu'ils veulent travailler, qu'ils ont envie de se dépasser, puis qui ont envie d'aller au-delà de simplement faire leur travail. Donc, en entreprise responsabilisée, on s'appuie sur le fait qu'on croit que des employés sont des employés de type Y, et comme quoi qu'on peut leur donner du pouvoir parce qu'ils vont être capables de le faire, et qu'ils vont le faire avec cœur et tête. Donc, c'est un peu le concept de base. Donc, comment on fait ça? Un, il ne faut pas essayer de distribuer le pouvoir si je n'ai pas de processus. Si je n'ai pas de processus, j'ai bien beau essayer d'aplanir le pouvoir, ben sur quoi les gens vont se fier? C'est quoi mes règles de gestion? C'est quoi mes règles du jeu? Tu sais, moi, je compare un peu l'entreprise responsabilisée, je le dis souvent, mais à un terrain de soccer, un jeu de soccer. Puis, dans le terrain de soccer, tout le monde sait c'est quoi les règles du jeu avant d'embarquer sur le terrain. Puis après, les gens sont capables de jouer. Si on veut que les gens soient capables de jouer, il faut leur donner les règles du jeu. Tu sais, par exemple, chez Kaboom, pour être capable de prendre une décision sur... Est-ce que je peux modifier une démarche avec un client? Ben oui, si toi, on te mesure sur ton budget, ta satisfaction client, ben, puis ton échéancier, ben, tant que tu prends des décisions qui respectent ces trois critères-là, t'es correct. Donc, tes règles du jeu sont claires, puis ça donne le périmètre pour décider. Aussi, dans l'entreprise responsabilisée, il y a le concept d'équipe. Donc, le pouvoir individuel, il est très éliminé. Les équipes sont communément responsables, c'est-à-dire que si on est une équipe de conseillères, toi puis moi, Laurie, on travaille ensemble sur un projet XYZ, ben je peux prendre une décision, mais si j'ai un feeling que tu serais pas d'accord avec moi, je dois absolument te consulter.
Fait que c'est l'idée de décentraliser le pouvoir.
Tout à fait. Puis là, c'est là de dire, le pouvoir, il n'est pas free for all. Il faut juste qu'il y ait vraiment des carrés de sable super bien définis.
Ça revient tout le temps au pouvoir qui passe finalement par l'information.
Toujours. Nous, on est basé beaucoup là-dessus. Puis en même temps, dans une cellule qui est comme une équipe de travail, on va s'assurer que les gens y ont l'expertise pour faire leur travail. C'est qui leur coach qui va les coacher s'il manque d'expertise au sein de l'équipe. Donc, tu sais, on vient assurer aussi que les autres types de pouvoirs sont comblés.
Oui, puis d'ailleurs, on va parler de l'information la semaine prochaine, vu que c'est deux sujets qui sont très reliés.
Oui.
OK, je me suis dit que ça serait une bonne suite à l'épisode du pouvoir.
C'est très logique.
On a modélisé 5 étapes de la transformation du pouvoir. Si on veut passer d'une structure plus traditionnelle à une structure qui serait responsabilisée, on pourrait trouver une façon de vous partager l'image, parce que c'est quand même plus facile à comprendre en voyant le graphique.
Oui, puis elle se retrouve aussi, on le décrit dans notre livre aussi, le cobook. Donc, cette exact. Fameuse image, vous pouvez vous procurer
le cobook. Qui a été illustrée magnifiquement par Catherine Bard, notre illustratrice, avec qui on aime beaucoup travailler. Oui, donc si vous voulez voir cette illustration, elle se retrouve également dans le livre que vous pouvez vous procurer sur notre site Internet.
Mais on peut l'expliquer globalement.
Oui.
On va essayer de l'imager. Donc, étape 1. C'est la hiérarchie. Donc, le gestionnaire au top avec 3 personnes en dessous. Donc, tu sais, la vraiment fameuse pyramide.
Ouais, mettons qu'on va prendre 4 personnes dans cet exemple.
Ouais, 4 personnes. Il y a juste 4 personnes. L'étape numéro 2, c'est quoi l'étape numéro 2, Laurie, déjà?
Le gestionnaire commence à impliquer son équipe dans la prise de décision.
Que là, on est comme dans une image de soleil. Donc, le gestionnaire est au centre, puis ses gens sont autour de lui. Donc, il implique, mais c'est quand même lui, c'est un peu comme le roi soleil, il implique les gens, mais c'est quand même lui qui prend la décision.
Ensuite, l'étape 3, c'est que le gestionnaire va commencer à partager les pouvoirs avec son équipe.
Là, la personne, c'est plus juste un roi soleil, les gens sont interreliés entre eux. Donc là, on a une fameuse image de réseau, ok? Tous les points sont interconnectés entre eux. Le gestionnaire garde un certain pouvoir, certes, mais les gens commencent à se partager le pouvoir, ça circule.
Fait qu'il va commencer à déléguer puis à dire ton carré de sable, c'est ça, t'as le droit de prendre des décisions quand ça dépasse pas tel ou tel périmètre. Fait que c'est comme une façon de commencer la responsabilisation.
Exact. Puis donner des petites règles. Des fois, si vous êtes deux qui sont d'accord, ben vous avez le droit d'y aller de l'avant, puis des petites choses comme ça.
Le quorum.
Le fameux quorum.
L'étape 4, le gestionnaire, il sort du milieu, il devient comme un employé comme les autres, entre guillemets. Puis il devient une personne comme une autre dans l'équipe.
Là, c'est vraiment, on s'imagine un cercle. Donc, 4 ronds qui sont reliés, c'est un cercle. Puis là, il n'y a plus de personne hiérarchique par rapport à une autre. Le roi soleil, le gestionnaire, il n'est plus au centre, il fait vraiment partie intégrante. Puis les pouvoirs circulent au sein de l'équipe de façon très circulaire.
Et l'étape ultime, la 5e, le gestionnaire devient un soutien à l'équipe.
Là, c'est quand le gestionnaire sort de l'équipe. Donc là, le gestionnaire qui était au départ, le gestionnaire, le fameux directeur, il n'est plus dans l'équipe, dans les décisions. Il n'est même plus là. Il sert à autre chose. Il sert à élever son équipe. Il est là comme coach. Il n'est plus là comme capitaine.
Puis c'est comme on peut imaginer une personne là, avec les bras ouverts qui soutient la terre, tu sais, là, comme le...
Oui!
Comme c'est une image de Zeus. En tout cas, je suis vraiment poche en mythologie, mais c'est vraiment ça. C'est que c'est le soutien à l'équipe, littéralement.
Tout à fait. Puis la Terre, elle continue de tourner même si Zeus n'est pas là.
Absolument. Les questions à se poser en tant que gestionnaire quand on veut commencer à responsabiliser son équipe, ça peut être par exemple, qu'est-ce que je me sens sécuritaire d'essayer? Parce que, tu sais, qu'est-ce qui serait pas sécuritaire de déléguer? Qu'est-ce que tu recommanderais pas, mettons, de déléguer dans une première année de responsabilisation?
C'est une excellente question. Moi, je déléguerais pas quelque chose dans lequel je ne suis moi-même pas en contrôle. Ben, ça veut dire que c'est pas assez mature pour être délégué.
Ouais, c'est pas quand on veut se débarrasser de quelque chose qu'on aime pas ou qu'on sait pas faire.
Ouais, ça c'est vraiment, ben en fait, les deux choses, je pense, ça serait les deux choses, de pas se déléguer automatiquement ce qu'on n'aime pas. Ça, c'est la pire affaire parce qu'on dirait qu'après, c'est jamais une réussite. Puis de pas déléguer quelque chose que je maîtrise pas parce que je serais pas un bon coach pour les gens.
Je pense qu'il y a quelque chose auquel on pense peut-être pas nécessairement tout de suite, mais c'est de prendre le pouls aussi. Si tu veux donner du pouvoir à quelqu'un qui en veut pas pantoute, c'est pas mieux.
Non!
Si la personne n'est pas prête à le prendre, ça peut causer même des départs, là, tu sais, c'est...
Puis, faut pas penser que tout le monde va être d'accord avec l'aplanissement du pouvoir. Vraiment pas. Tu sais, nous, on a eu des départs qui étaient liés à une personne... Moi, je me souviens, j'avais une personne chez nous qui était clé, qui avait un grand pouvoir d'information, parce qu'elle avait accès à tout, tout, tout. Puis, le jour que j'ai voulu rendre transparent les états financiers, elle, ça la rendait mal à l'aise parce qu'elle perdait son pouvoir face aux autres. Mm. Puis c'est vrai qu'elle perdait.
Puis ça, c'était pas écrit nulle part.
Ouais. Non, c'était de la, vraiment du pouvoir informel pur et dur. Puis ça, je l'avais pas vu. Je l'avais pas vu venir. D'autres exemples, c'est de dire... Puis c'est pour ça que nous, on appelle plus ça l'entreprise libérée chez nous. On appelle ça l'entreprise responsabilisée parce que c'est moi, je me suis rendu compte qu'avec la liberté venait de grandes responsabilités. Puis que l'entreprise libérée, c'est pas de pouvoir faire tout ce que tu veux sans conséquence. C'est de prendre acte de tes décisions. Donc, c'est responsabiliser plutôt que libérer.
Oui.
Tu sais, le pouvoir est libéré, certes, mais avec le pouvoir vient toujours des immenses responsabilités.
Ben oui, c'est ça. Plus grande que dans une structure traditionnelle, mais ça permet aussi un développement tellement plus grand et rapide.
Exactement. Puis c'est là qu'il faut voir le bon côté des choses, mais qu'il y a certaines personnes qui n'ont rien envie de faire. Moi, j'aime toujours l'exemple. Il y a certaines personnes là, qui sont en couple, puis c'est leur blonde ou leur chum qui décide ce qu'ils mangent chaque jour, puis qui font leur lunch.
Ah,
ces mêmes personnes-là, ils vont pas magasiner leurs vêtements, puis ils payent pas leur bill d'hydro. C'est leur blonde puis leur chum qui s'en occupent. Bien, ça se peut que ça leur tente pas de se responsabiliser. Ils sont bien là-dedans.
Oui, c'est correct aussi. Il faut juste apprendre à dealer avec les limites des personnes. Tu sais, ça peut être des décisions déchirantes et difficiles de des fois perdre des gens dans l'entreprise, mais des fois, c'est juste pour le mieux, pour la vision qu'on veut.
Exactement.
En conclusion, je pense que la complexité avec le pouvoir, c'est qu'il y en a partout, que ça change tout le temps. Mais je dirais que si on a une chose à retenir, c'est de s'ouvrir les yeux et de pas se battre contre le courant.
Exactement. Puis on en parle pas mal aussi dans le livre, si vous voulez aller jeter un coup d'œil.
Absolument.
Donc, on se dit à la semaine prochaine pour l'épisode sur l'information.
Oui, en fait, c'est ce qui conclut l'épisode 12 aujourd'hui de Management 101 sur le pouvoir. On prend une mini-pause estivale la semaine prochaine, mais on vous retrouve dès la semaine suivante pour vous parler d'information, comme tu viens de le mentionner. Entre-temps, on reste disponible sur tous nos réseaux sociaux au koboom.co sur Facebook, LinkedIn et Instagram ou à notre adresse courriel au info@koboom.co. On se voit dans 2 semaines.
À dans 2 semaines.
À la prochaine.